Nous sommes le vendredi 9 janvier 2015. Et aujourd'hui, une invitée dans Patchworld, Cécile Mathias. Je suis ravie de la rencontrer parce qu'elle est biographe et je trouve que c'est vraiment un métier très original. Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Merci de venir dans les locaux de Radio Canu nous raconter un petit peu tous les gens que vous avez pu rencontrer dans les différents quartiers de Lyon et de la région.
Oui.
Voilà, donc on a une heure pour en parler, ça va être très, très diversifié, hein. J'ai un peu tous les bouquins, alors je ne sais pas si on peut les trouver dans le commerce, on va expliquer tout ça, comment ça se passe.
Oui, ça dépend, il y en a certains et d'autres c'est à usage plus privé, ou, voilà, donc on peut les trouver dans les structures qui ont porté les projets, mais il y en a peu qu'on trouve effectivement en librairie, c'est uniquement ceux qui sont passés par une maison d'édition.
Également Bertrand avec nous aujourd'hui.
Salut.
Salut.
Dans la technique, il n'y a qu'un micro, donc on se le partage. Parce que je lui montre en même temps comment ça fonctionne. Il viendra exceptionnellement vendredi 30 faire Patchworld. Voilà, la descendance est assurée.
Je prendrai le relais juste à cette date.
Voilà, sauf que je serai au collège Gabriel Rousset à Gerland pour des documentaires et des compositions. Sur le quartier de Gerland, donc c'est aussi passionnant. Donc voilà, je crois que c'était le lien qui nous permet de rencontrer Cécile Mathias, et c'est une vraie richesse humaine et culturelle. Voilà, et puis de vraiment connaître la ville de Lyon et son évolution. Voilà, vous êtes dans Patchworld, l'émission qui parle de tout, de toutes et de tous, et plus encore. Et puisque le tout est plus que la somme, on essaiera d'oublier personne. Ce début d'année 2015, encore une deuxième invitée, hein, c'est déjà un mois de janvier rempli d'invités, ça va être très chouette. Donc la semaine dernière c'était des fourmis dans les mains, on écoutera un morceau tout à l'heure. Et là aujourd'hui donc un métier très très original, biographe. Cécile Mathias, bonjour.
Bonjour.
Rebonjour, merci d'être venue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on a l'idée un jour de devenir biographe ?
Alors on a l'idée en lisant un article en fait dans Télérama sur une jeune femme qui était biographe elle-même. Et ça correspondait à un moment de ma vie, en fait, où j'avais envie de changer un petit peu d'orientation professionnelle, entre autres d'écrire plus. Mais j'ai toujours cette difficulté qui est de me mettre devant la feuille blanche, comme beaucoup de personnes, et de trouver le sujet. Et c'est vrai que, bon, cette personne qui faisait des biographies, elle avait la matière, puisque c'est les personnes qui racontent leur vie, donc à partir de ça, elle reformule, elle réécrivait, elle leur faisait un livre qui racontait leur histoire. Donc il y avait cet aspect-là qui m'intéressait, il y avait le fait aussi que moi je suis d'une famille du côté maternel avec beaucoup, un grand esprit de famille, on est très nombreux, on se réunit depuis très longtemps à 40 dans un chalet une fois par an, donc tout ce qui était la transmission, la mémoire, la famille, c'était aussi un thème qui m'intéressait, qui me parlait beaucoup. Et puis, alors, même si je dis toujours que je ne suis pas là pour psychanalyser ou aider les personnes quand elles me racontent leur vie, j'ai quand même pas mal de personnes aussi très proches, dont ma maman qui était psychologue, donc je pense que j'ai aussi la faculté à écouter les autres et un intérêt pour les autres. Et ces trois choses réunies ont fait que ce métier m'a tout de suite parlé, m'a tout de suite intéressée. Donc j'ai pris contact avec cette personne qui m'a formée au métier de biographe et qui m'a dit il faut déjà en faire une première biographie pour voir exactement en quoi ça consiste. Et donc je suis allée voir une amie de ma grand-mère qui avait 102 ans à l'époque et qui a accepté de jouer au cobaye, on va dire, sachant que mes grands-mères, je pensais que c'était compliqué dans le rapport affectif d'aller interviewer quelqu'un de très proche pour un premier essai. Et donc, on a fait cette biographie ensemble, et c'est de là que tout a démarré.
Et donc, c'était à quelle époque ?
Eh bien, ça, c'était en 2004. Voilà, donc ça a fait 10 ans l'année dernière que je suis à mon compte. Et que bah, pour le moment, je touche du bois, j'arrive à vivre de cette activité, alors que j'ai beaucoup diversifié, puisque c'est vrai que moi, j'étais partie vraiment au départ sur les biographies de particuliers, comme faisait cette personne sur Paris. Et je me suis aperçue très vite, moi, que c'était quand même pas si facile que ça d'avoir une clientèle suffisante pour en vivre. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, très très rapidement, de faire un travail sur une mémoire collective, plus qu'une mémoire individuelle, qui était le quartier du Vieux-Lyon. Donc j'ai été en fait contactée par des personnes qui travaillaient avec la MJC du Vieux-Lyon, un groupe d'habitants qui se réunissaient pour parler de leurs souvenirs du quartier. Et voilà, c'est arrivé. Alors je veux quand même le citer parce que c'était quelqu'un qui était dans une radio, Louis Muron, qui travaillait sur RCF, que je connaissais bien, et qui avait été sollicité dans un premier temps, et qui lui-même, n'ayant pas la possibilité d'aider ces personnes, a renvoyé vers moi. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré, que j'ai pu décliner l'aspect mémoire et biographique sur des collectivités.
Alors les premières biographies que vous avez pu... faire, c'est, donc c'était cette personne de 102 ans et tout de suite ça a été dans le Vieux-Lyon.
Voilà, alors tout de suite après ça a été le Vieux-Lyon, effectivement. Donc je suis arrivée dans ce groupe d'une vingtaine de femmes.
C'était en quelle année ?
Alors ça doit être 2004 ou 2005, enfin c'est oui, tout de suite au début, hein, très très rapidement.
Vous auriez dû venir chez moi, j'étais au rue Saint-Jean à cette époque.
Voilà, et donc je suis arrivée là, et c'était quand même pas très simple à faire parce qu'il y avait à chaque réunion une vingtaine de personnes, avec des forts caractères, des moins forts caractères, des personnes qui prenaient beaucoup la parole. Donc ça a été une expérience très intéressante, parce que c'est vrai que moi je suis née à Lyon, que je connaissais globalement l'histoire de ma ville, mais pas de façon aussi précise. Et donc j'ai trouvé très intéressant cette immersion dans le quartier, en découvrant aussi des choses sur ce quartier. Je connaissais plus le Vieux-Lyon dans l'esprit, on sort pour le 8 décembre, enfin voilà tout. Et le quartier très, très festif et très vivant, les boutiques, on allait acheter les écharpes, entre guillemets, baba cool à l'époque. Enfin voilà, je connaissais cet aspect-là des choses, mais pas du tout toute l'histoire en amont, les vieux commerces, les éboulements, enfin toute une vie que je connaissais pas. Donc on a travaillé pendant presque une année. On se réunissait, je ne sais plus à quelle fréquence, mais enfin assez régulièrement. Et donc les personnes, on essayait de faire des thèmes à chaque fois, les personnes racontaient. Et moi j'avais décidé d'utiliser la même méthode qu'avec les particuliers, c'est-à-dire d'enregistrer avec un petit enregistreur pour vraiment pouvoir suivre aussi, être présente pendant la réunion. Et puis ensuite je transcrivais la matière et... Et puis on a eu l'opportunité, et c'est ce qui a aussi lancé mon activité, d'avoir TLM qui est venu faire un sujet. Moi je les avais contactés puisque je les connaissais également. J'avais travaillé en fait 7 ans au service communication de la FNAC Bellecour, et donc je connaissais beaucoup de journalistes par ce biais-là. Et donc j'avais contacté Vite Quartier TLM pour parler de ce travail. Et ils sont venus faire un reportage. Et l'éditrice des éditions du Maupassant, donc Nathalie Roche, a vu ce reportage et nous a appelé pour savoir si on cherchait un éditeur. Et alors nous, on n'était pas du tout au départ partis pour avoir un éditeur et une diffusion librairie, on voulait faire ça entre nous, et on s'est dit c'est une très belle opportunité. Donc on a eu quand même ce livre qui a été édité chez cette éditrice, donc qui est spécialisée dans les livres de région, avec une belle réalisation, des belles photos, et ça a permis quand même de donner beaucoup de visibilité à ce travail. On a eu pas mal d'articles dans la presse, donc voilà, ça a été quand même pour moi un beau tremplin d'avoir à la fois ce travail avec ce groupe, et puis la MJC qui était derrière, et les éditions du Maupassant qui sont venues se joindre à nous.
Alors du coup, ce premier livre que vous avez fait, qui a accès à ce livre ?
Alors ce livre, on le trouvait en librairie, puisqu'il est diffusé en librairie, hein, donc il était à la FNAC, il était chez De Citre. Alors il n'est pas tout le temps disponible, mais on peut le commander, puisque là il y a une diffusion, il y a un éditeur, donc une diffusion. Donc là ce sont des livres, tout ce qui est fait avec les éditions du Maupassant, il y en a un certain nombre, on peut les trouver en librairie, ou les commander en tout cas, s'ils ne sont pas disponibles sur place.
Alors, qu'est-ce que vous avez retenu sur le Vieux-Lyon, par exemple, peut-être une anecdote marquante pour parler des auditeurs, parce qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas de Lyon, hein, des amis qui nous écoutent jusqu'à Lille.
Ouais.
Ça, si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit.
Moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement cette vie dans ce quartier qui était très très pauvre et quand même très 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 délabré, avec des logements même encore dans les années 50, fin des années 50, avec des toilettes sur le palier, enfin un quartier qui, c'est vrai, était à l'opposé de l'image qu'on en avait à ce moment-là, et même dans les années 80-90. C'est vrai que moi, j'ai découvert toute cette vie-là. Toute l'histoire de l'éboulement que je ne connaissais pas du tout. Avec donc, moi, ce qui m'avait frappé, c'est les chevaux, les animaux, les rats, qui étaient partis quelques heures avant, qui avaient fui le quartier parce qu'ils avaient senti qu'il allait se passer quelque chose. Moi, j'ai surtout retenu de cette expérience l'aspect humain, parce que c'est vrai que j'ai rencontré tout un tas de personnes très différentes. Je pense que ça m'a beaucoup fait avancer dans mon métier aussi, parce qu'il a fallu gérer un groupe, donc c'est quand même très très différent d'une personne toute seule. L'expérience que j'avais eue en amont avec l'ami de ma grand-mère, et puis j'avais fait 2-3 petits travaux avec des particuliers, m'avait aussi appris à savoir gérer parfois les émotions, parce qu'il y a des personnes qui ont raconté des choses qui les touchaient de près, qui avaient justement dans ces éboulements perdu des personnes qu'elles connaissaient. Je pense que tout ça, c'était, j'avais un petit peu pratiqué, mais encore pas beaucoup, et là ça m'a vraiment permis de mieux gérer ce travail, de mieux en voir tous les aspects. Et puis de me conforter aussi dans l'idée que c'était ce qui me plaisait, puisque il y avait à la fois le côté rencontre avec des personnes, échange, et puis ensuite cette base de tout ce qui était raconté, sur laquelle je réécrivais. Voilà, donc j'étais vraiment dans les aspects qui m'intéressaient au départ, et puisqu'après le livre a été construit, et je continue à construire tous les livres que je fais aujourd'hui, alors surtout pour les travaux collectifs. Je dis c'est un millefeuille, c'est-à-dire que j'ai des masses d'informations. Alors, ça peut être tout un tas de témoignages, mais il peut y avoir aussi des articles de presse qu'on m'a prêtés, des documents, enfin tout un tas de choses. Et à partir de tout ça, faut que je construise une histoire. Alors, soit thématique, soit chronologique, mais il faut que j'articule avec à la fois des parties purement rédigées et rédactionnelles, et puis intercaler des témoignages pour le côté vivant. Alors, témoignages que, bien sûr, je réécris pour les rendre quand même plus littéraires, que je compacte, parce que souvent les personnes se répètent beaucoup. Mais voilà, c'est donc cette organisation, cette structure qui demande à être très organisée, très méthodique. C'est un gros travail d'organisation pour arriver à construire quelque chose à partir de tout un tas d'éléments très disparates.
Si vous saviez pourquoi je suis toujours accroché au ciel. Me dirai pourquoi.
Voilà, donc c'est le tout nouvel album de Des Fourmis dans les Mains. Donc j'avais reçu le chanteur Laurent Fellow vendredi dernier dans Patchworld. Et vous venez d'entendre le premier titre de ce nouvel album qui s'appelle Partout des gens. Donc le titre de ce morceau, Le Ciel. Et tout de suite on continue avec Cécile Mathias en direct dans les locaux. Donc bien sûr on te raconte plein de choses, hein, tout ce qu'on connaît sur Lyon. Vous êtes aussi lyonnaise d'origine donc.
Exactement.
Vous avez vécu longtemps dans un même quartier, vous êtes originaire de quel coin?
Non, moi je suis née dans le 7e à Saint-Joseph. Après, non, j'ai vécu plutôt longtemps, assez longtemps à Villeurbanne. Et là, par contre, je suis depuis 20 ans à Perrache, dans le quartier Perrache, voilà, donc que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai eu la chance de travailler aussi.
Très bien. Alors, je sais pas s'il y a un ordre chronologique, vous m'avez prêté plein de bouquins.
Oui.
Pas celui-ci, mais je vous l'avais amené, parce que c'est Gerland, c'est un ami qui me l'a prêté, je vous le montrerai après. Alors, je les prends dans l'ordre, ou peu importe, ou vous avez une chronologie, ce serait peut-être bien de...
Non, mais ce, peu importe, enfin c'est...
Alors tiens, celui-ci, au cœur d'un quartier, parcours de vie avec le centre social Mermoz. Mm-hmm. Donc, ça date de quand?
Alors là, les dates, j'ai pas révisé, ça doit être 2009 ou quelque chose comme ça, je pense...
Je sais pas si
à la fin, oh, je pense au dos, non peut-être.
Parcours de vie avec le centre social de Gerland.
Ouais, mais je pense que c'est non, c'est.
Donc c'est aussi aux éditions du Maupassant. Voilà. Est-ce que c'est un pareil? C'est un livre qui est distribué où? Uniquement centre social ou?
Alors il est centre, il est oui, celui-ci, il était centre
2008,
social. Ouais.
Je crois 2008.
2008. Vous voyez, j'avais un an d'avance. C'est-à-dire en fait après le travail donc avec le Vieux Lyon. Donc j'ai vu l'opportunité, l'intérêt aussi de pouvoir faire des travaux avec des groupes, parce que c'est vrai que pour un côté purement économique, je peux avoir des budgets un peu plus importants qu'avec des particuliers. Et donc et puis on peut aussi faire une exposition. Enfin, il peut y avoir une mise en perspective du travail qui peut être intéressante. Donc j'avais fait un travail sur à Brignais avec une association de patrimoine de Brignais que j'avais rencontré par le biais du Vieux Lyon. Et puis Gerland, en fait, c'est parce que j'ai travaillé après dans le cadre de la politique de la ville. J'ai eu un certain nombre de contrats avec des structures grâce à la politique de la ville. Et entre autres, j'ai travaillé avec Mermoz, alors avec à la fois le centre social et la MJC Laennec. Au moment où il y avait tout le projet urbain de destruction de l'autopont, du quartier qui allait complètement changer. Et donc on avait fait un travail là sur les deux côtés, donc Mermoz Nord, Mermoz Sud, d'aller rencontrer les habitants, de les interroger pour connaître un petit peu leur vécu, leur quotidien, leurs attentes, leurs angoisses. Donc c'est un petit peu parti de là, tout ce travail qui a été fait sur le quartier. Donc là on avait plutôt fait des expositions, des journaux, des petits journaux, des choses comme ça. Et puis, grâce à ce travail, donc, j'ai rencontré le directeur du centre social, donc Mermoz, qui souhaitait faire un livre donc, sur l'histoire de ce centre social. Et donc là, ça a été des belles rencontres aussi, puisqu'il y a eu à la fois, donc, le principe était donc de faire raconter l'histoire de cette structure à la fois à travers les anciens directeurs et directrices, qui n'étaient pas si nombreux que ça finalement. Et puis les administrateurs et puis bien sûr les habitants, les usagers et puis les responsables d'activité. Donc là c'était plus un travail sous forme chronologique. Le violon c'était plus thématique, Brignais aussi. Là c'était plus quelque chose de chronologique. Il y avait vraiment un historique, voire l'évolution de la structure. Donc à la fois avec les témoignages. Alors je sais plus, j'ai dû rencontrer. En gros à chaque fois je rencontre une quarantaine de personnes. Hein. Et puis après, toute une masse aussi de documentation, puisque là, on avait des revues de presse très conséquentes, donc qui permettaient aussi de combler les vides, les trous, parce que les personnes qui vous racontent, parfois, ils ne se rappellent plus des dates exactes, ils ne se rappellent plus des périodes. Et autant, moi, je dis ce que raconte quelqu'un sur sa vie privée. Je pense au Vieux Lyon, des dames qui racontaient d'aller prendre les douches à l'école tous les jeudis ou tous les mercredis. Bon, que ça soit le jeudi ou le mercredi, c'était pas très grave qu'on se trompe sur le jour. Par contre, là, quand il y a des choses très factuelles, des dates très importantes pour l'évolution d'une structure, c'était quand même bien d'avoir les dates précises. Donc, c'est vrai que la revue de presse a été très intéressante. Les comptes rendus de CA aussi, enfin, les choses comme ça. Voilà. Donc, on a fait ce livre avec les habitants. Pour et grâce aux habitants, avec une histoire très riche.
Les archives, les articles, vous les trouvez aux archives aussi ou...
Là, c'était au centre social. Ils avaient tout classé, ces articles. Donc, ils étaient eux-mêmes au centre social. On les a ensuite déposés aux archives départementales une fois que le travail a été terminé. C'est moi qui me suis chargée de ce dépôt, dans la mesure où je maîtrisais exactement tout ce qu'il y avait, donc, et les photos, et les vidéos quand il y en avait, et puis toute cette masse d'articles et de comptes rendus qui ont été déposés ensuite, mais qui ont servi à... vraiment alimenter le livre.
Alors, je lis le tout début. Vendredi 7 mars 2008, 14h. Voilà, on peut être très précis, même dès le début du livre. Dans le hall du centre social, deux dames d'un certain âge attendent la pédicure. Apprenant qu'elles n'assurent plus de permanence au centre, elles se montrent étonnées car elles venaient la voir toutes les semaines depuis 30 ans. Et en dessous, c'est marqué « fin d'une époque ». Fermez les guillemets.
Oui, c'est vrai que ce sont des structures où, alors en plus dans des quartiers comme Mermoz, qui sont des quartiers quand même défavorisés entre guillemets, où le centre social remplit un rôle à la fois de rassemblement, mais de défouloir aussi quand ça va pas. On vient casser dans le centre social. Les jeunes sont beaucoup venus casser dans le centre social. Quand ça va très bien, ben il y a des fêtes, il y a plein de choses devant le centre social, dans le centre social. Mais il y a vraiment on a appelé au cœur d'un quartier parce qu'il est vraiment par sa situation au cœur du quartier. Et il est vraiment au cœur de la vie des habitants qui en attendent du coup un peu tout et n'importe quoi finalement. Et d'autant que ce centre social avait connu une période très très faste avec un directeur dans les années début de politique de la ville, donc les années 80, où il y a eu effectivement un afflux de moyens à ce moment-là donnés à ces structures. Et bon, il y a eu un peu la folie des grandeurs sur Mermoz. Le directeur de l'époque avait loué un château à l'année où il emmenait tout le quartier. Il y avait des montgolfières. Enfin, c'était la fête, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, forcément, tout ça s'est cassé la figure. Et il y a eu la période de restriction. Et ça a été très, très, très mal vécu dans le quartier, vraiment comme un abandon. Et moi, quand je suis arrivée pour faire ce travail, les directeurs qui s'étaient succédés depuis, deux ou trois ou quatre, avaient dû travailler à la fois pour remettre à flot financièrement, mais également pour retrouver la confiance des habitants en leur faisant comprendre que le centre social n'était pas là non plus pour tout payer, pour tout offrir, et que voilà, pour un petit peu retravailler sur le rôle exact et la fonction du centre social dans le quartier.
Oui, d'ailleurs, je me souviens, ça devait être à côté. Travaillait à MJC, qui était à côté, salle Janton, je crois.
Oui, à la Hénac Mermoz. Oui, de l'autre côté. Donc, c'était de l'autre côté, à l'époque où il y avait cet autopont qui était une barrière psychologique aussi importante que les voûtes à Perrache. C'est la même. On ne traversait pas.
La marque des frontières. Des limites,
voilà, exactement.
Ah oui, je connais bien. Attendez, je crois que c'était le bus, le 38 qui passait. Comme ça, attendu. 39, non, peut-être. Oui, celui qui va jusqu'au fac après, sur Bron. L'histoire au commencement, l'histoire du centre social Mermoz. Je vais vous lire le début un petit peu, histoire qu'on ait un peu le contexte de ce bouquin. Implanté au cœur de la cité et intimement lié à celle du quartier et de ses habitants, à leur évolution au fil des années, à leur joie et à leurs difficultés. Dès la fin des années 50, les premières barres d'immeubles sont édifiées à Mermoz Sud, sur des jardins ouvriers et sur l'emplacement de la ferme de Monsieur et Madame Demeure, afin d'accueillir les rapatriés d'Algérie. À la même époque, deux cités de bâtis identiques ont été réalisées, la sauvegarde à la Duchère et la grappinière à Vaux-en-Velin. En 1962, les premiers locataires prennent possession de cette cité ouvrière, construite en limite de Lyon. Je suis arrivée dans le quartier dans les années 60. Ce n'était presque pas fini. Il y avait encore des petites collines entre les immeubles. C'était à l'état brut. Je venais de Décines, où nous habitions dans des chalets avec des jardins. Mais c'était la mode des HLM. Tout le monde en voulait. À cette époque-là, le gardien vous mettait une amende si vous étendiez le linge à la fenêtre, si vous marchiez sur les pelouses. La population était plutôt maghrébine. Ensuite, il y a eu les pieds noirs, aussi bien d'origine juive qu'espagnole ou autre. Ça faisait petit village où tout le monde s'entendait bien. Il n'y avait pas de problème de racisme, pas autant de délinquance. Il y avait ceux qu'on appelait les loubards, mais c'était tout. La plupart des gens du quartier travaillaient et les jeunes se faisaient embaucher l'été chez Lensbourg, où ils faisaient des cures de fruits et de vitamines, ou chez Paris-Rhône. Et c'est Madame Amraoui, habitante, qui voilà. Raconte un petit peu donc, au tout début, donc la fin en 62.
Voilà, donc là vous avez vu un petit peu le début qui est qui est écrit, que j'ai écrit à partir d'informations que j'ai regroupées. Et puis ensuite, donc, le témoignage qui est cité avec le nom de la personne. Alors, c'est vrai que parfois, moi, quand j'ai des témoignages qui ne sont pas spécifiques à une personne, comme je vous disais tout à l'heure, la dame qui racontait, on prenait les douches le mercredi à l'école, je ne mets pas forcément le nom de la personne. Sinon, ça alourdirait si à chaque fois que je cite quelqu'un dans le texte, je mets le nom de la personne. Ça, c'est quelque chose de général. Après, bon, ce genre de témoignage où c'est vraiment lié au vécu d'une personne en particulier, ben, la personne est citée. Et puis dans ce genre de travaux collectifs, à la fin de l'ouvrage, on remercie toujours toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à travers leur témoignage, sachant que ben, une fois que j'ai fini moi la construction du livre, je donne toujours à relire à tout le monde. Alors chacun relit que sa partie pour avoir quand même la surprise finale, mais je donne vraiment à chacun à relire sa partie pour qu'il puisse valider, éventuellement corriger, peut-être qu'il peut y avoir des fautes sur des noms propres, ou même des éléments qu'on a dit et qu'on ne veut plus voir écrit parce qu'on trouve que c'est un petit peu dur, ou finalement on n'a pas envie que ça soit dit comme ça. Donc qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à l'arrivée, et que les personnes ne se sentent pas trahies non plus dans la confiance qu'ils m'ont accordée.
Donc vous faites vous présentez à toutes les personnes que vous avez rencontrées en amont, avant l'édition, ce que vous allez éditer.
En fait, chacun reçoit sa partie à lui, la partie de ce qu'il m'a raconté, et il le reçoit, il le relit, il valide, il corrige, il me le remet, et moi donc je tiens compte de ces corrections dans le document final. Pour des travaux comme celui-ci par exemple, ou Brignais, j'avais même fait participer les habitants au choix des photos. Donc on était allés ensemble chez l'éditrice, on avait apporté, qui avait déjà toutes les photos que moi j'avais pu récolter, et le choix des photos en regard du texte a été fait avec les habitants, qui ont pu donner la légende exacte, voilà, puisque ce sont eux qui maîtrisent le mieux leur quartier ou leur commune. Donc je trouvais ça très important de les faire participer vraiment au travail jusqu'au bout.
Je vais juste lire la fin s'il y a des choses aussi qui indiquent... Justement sur Gerland, s'y côtoyaient des relogés de la zone Félisa, à Gerland, des bidonvilles du Tonkin et des rapatriés d'Afrique du Nord qui se serrent les coudes et travaillent ensemble, jour après jour, pour améliorer leur environnement. En effet, la cité avait été construite pour durer 10 ans, avec des fenêtres qui avaient été refusées à Sarcelles ou des rideaux mis à la place des volets et qui avaient pourri en 2 ans. Et les habitants ont vite pris l'habitude de militer pour leur quotidien. Entre guillemets, ouvrez les guillemets, un jour... où le maire Louis Pradel était en visite dans le quartier, nous avions décroché tous les rideaux bleus pourris de nos fenêtres pour les mettre dans la rue, devant le maire. Dès qu'il était passé, nous les enlevions et les reposions un peu plus loin. Et comme ça, dans tout le quartier. Ça a été un de nos plus grands fous rires. Il n'y avait plus de race, mais uniquement des êtres humains, tous ensemble. Claire Garasus, ancienne habitante.
Mmh. Y a beaucoup de convivialité qui ressortent tout ça, enfin, de ces travaux collectifs. Il y a vraiment un esprit autour d'un quartier, autour d'une structure qui ressort à chaque fois. Et c'est vrai que c'est ce que je trouve aussi qui me touche, quoi. C'est ces rencontres avec les personnes, et puis la confiance aussi qu'elles font en livrant leurs souvenirs, même si on rentre a priori moins dans de l'intime que quand je fais une biographie avec un particulier, mais malgré tout elles livrent souvent des choses quand même très fortes. Et c'est vrai que le quartier de Gerland, je commence quand même à bien le connaître parce que j'avais donc fait ce qu'on avait appelé les cafés des habitants avec le centre social, donc avec Jean-Paul Villain, directeur du centre social à l'époque. Et donc on a fait pendant 3 ans, parce qu'on a eu une année où on s'est trouvé à courte subvention et on n'a pas pu aboutir sur les 2 années prévues à l'origine. On a fait une exposition au milieu de ces 3 années pour quand même montrer aux personnes qui avaient participé à ces cafés des habitants, donc où ils racontaient leurs souvenirs sur le même principe, ben que ce qu'ils avaient dit n'était pas perdu, qu'on n'avait pas utilisé leurs paroles et puis que c'était comme ça et qu'on n'allait rien en faire. Donc on a fait une exposition au centre social à mi-étape, donc avec tout un tas de documents qu'on avait eus. Moi j'avais pris quelques petites anecdotes, et puis donc l'année suivante on a pu aboutir au livre. Et c'est vrai que quand on continue un travail sur un même quartier avec d'autres personnes, là je viens de travailler avec les archives municipales, donc dans le cadre de l'exposition sur les Italiens de Lyon, et donc il fallait que je collecte le témoignage d'une dizaine d'Italiens arrivés à Gerland. Donc j'ai utilisé déjà le réseau que j'avais connu au moment de ce travail sur la mémoire du quartier. Et puis c'est vrai, quand on parle de la Félisa, quand on parlait d'un certain nombre de lieux, je les maîtrisais, je les connaissais. Et du coup c'est quand même intéressant aussi quand on commence à mieux connaître un territoire, parce que on comprend plus rapidement ce dont on nous parle, on peut être plus réactif, on peut aussi aller chercher d'autres informations que celles qu'on nous a données la première fois. Et donc là, pour peut-être terminer sur Gerland, enfin c'est pas fini, mais on démarre un travail toujours avec le centre social sur les femmes, donc les femmes du territoire. Disons que ce qui réunit ces femmes, c'est donc d'être sur ce territoire de Gerland, alors soit parce qu'elles y habitent, soit parce qu'elles y travaillent, soit parce qu'elles sont dans des associations qui sont implantées sur le quartier, soit ça peut être les trois. Et l'idée, c'est après, c'est des parcours de vie. Donc de femmes de toute origine, tout âge, toute culture, toute religion, en essayant d'être le plus équilibré vraiment au niveau de tout ça, et d'avoir un petit peu une image, une représentation un petit peu de toutes les femmes qui sont sur ce quartier aujourd'hui, qui font la richesse de ce quartier, qui l'animent. Je viens de faire le même genre de travail avec le centre social de Caluire, donc on a sorti un livre fin décembre. Donc j'ai rencontré 22 femmes entre 18 et 92 ans qui m'ont raconté donc leur parcours de vie, alors qui étaient ou sur la commune depuis très longtemps ou plus récemment arrivées. Et voilà, le point commun était à la fois qu'elles étaient toutes sur la commune, mais également le fait d'être femmes. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu à travers la diversité aussi la richesse de ces parcours et en quoi elles se retrouvent finalement toutes, sur tout un tas de choses, la maternité, la féminité, comment concilier le travail et les enfants, la vie de famille. Enfin voilà, c'était un petit peu l'objectif. Donc là, on a fait un livre, donc témoignages et illustrations. Il y a une illustratrice donc, qui a fait un portrait de chacune des femmes sans les avoir vues, uniquement à la lecture du témoignage. Et puis là sur Gerland, l'idée c'est de faire donc de la même façon une collecte de témoignages de femmes entre 20, 25 et 30, et ensuite d'avoir des photos cette fois-ci que les femmes prendront entre elles pour illustrer ces témoignages.
Je vous propose une petite coupure musicale.
J'ai oublié qu'une fois j'avais vu naître un agneau. J'ai oublié les genoux de mon père au trot et au galop. J'ai oublié les mots de ma première amoureuse qui m'avait fait rougir. L'arrière-grand-mère qui disait que tout est à reconstruire. J'ai oublié les bras de ma mère. J'ai oublié hier. J'ai oublié qu'un jour j'avais collé mes lèvres sur d'autres et que j'en étais raide, mort, naissant. J'ai oublié qu'un jour j'avais 10 ans et l'esprit naïf. Je t'avais dit je te couperais toujours tes fleurs qu'avec mon canif. J'ai oublié qu'un abreuvoir remplaçait la mer et ses eaux et d'imaginaire en bateau. Et d'imaginaire. J'ai oublié la nuit, les étoiles filantes. J'ai oublié les saisons, les migrateurs qui chantent. J'ai oublié les samedis soirs et les danses pour deux. Et de faire un feu juste pour faire un feu. J'ai oublié d'ouvrir des vins jeunes pour se rendre moins vieux. J'ai oublié de penser que la vie c'est comme des yeux. J'ai oublié les deux. J'ai oublié les deux. J'ai oublié. J'ai oublié, nous deux. J'ai oublié, et nous deux. J'ai oublié Lisa sur un quai de gare. J'ai oublié mon grand-père et puis c'était trop tard. J'ai oublié ce que je voulais revoir. Ne partez pas, je n'ai pas tant de retard. J'ai oublié le repas de tout à l'heure déjà. J'ai oublié si un jour je suis déjà passé par là. J'ai oublié tout ce qu'on s'est dit sur le trajet et même ce soir. J'ai oublié de te dire que je n'ai aucun pouvoir et que la nuit, on n'est pas beau à voir. J'ai oublié de te dire que ça y est, on tire les rideaux noirs. J'ai oublié de te dire bonsoir. J'ai oublié de te dire que je vais te laisser et que demain, oui, demain, je pars. Ouais, je pars. Que j'étais venu et que sans doute on ne se verra plus. On oubliera les mots de ce soir, ce qu'on dit partout pareil à tous les comptoirs. Que si c'est pas du jeu, ben c'est jouer, oublier, rejouer, oublier, rejouer, oublier, et puis s'en aller. Je vais oublier ce soir et toi aussi sûrement. Alors les souvenirs gravés, c'est pour maintenant. Même si on se ment, même si on se ment. Il y a une chose que je n'oublie pas et que personne n'oublie jamais, c'est cet au revoir. Alors mon ami du comptoir, voilà le départ. Reste donc plein d'amour et surtout n'oublie pas de le dire.
Voilà, enfin, on raconte beaucoup de choses entre les, entre les morceaux. Enfin, il y a des choses en commun sur le quartier de Gerland. Oui, vous, alors vous étiez sur, d'ailleurs, aux archives municipales. J'étais en même temps pour les voix de la ville.
C'est vrai, on s'est croisés. Oui.
Ça a duré une semaine, mais il y a eu long. Par contre, il y a aussi une exposition de photos qui a duré très longtemps sur les commerçants, justement, les commerçants des années 80.
Exactement. J'ai un projet là-dessus, mais il n'est pas encore du tout abouti. Mais j'aimerais beaucoup travailler sur une biographie un peu des commerces dans les quartiers, quoi, de faire un annuaire des commerces, enfin de l'historique, de l'histoire des commerces. Voilà, donc j'ai un peu ce projet en tête depuis un petit moment. Et c'est vrai que d'avoir vu cette exposition aux archives l'a réactivé, donc on va voir, mais j'en ai parlé aux archives qui sont intéressées a priori. Voilà, ça fait partie des choses qui restent dans ma tête. J'ai toujours plein d'idées en fait pour travailler sur ces sujets de mémoire. Et voilà, donc c'est vrai qu'après il y a les livres, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont pas du tout publiées. Alors il y a donc les particuliers que je continue quand même, hein, même si j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup de travaux en collectif, mais les particuliers, j'ai toujours 2-3 biographies en cours sur une année avec des particuliers. Donc ça, effectivement, c'est pas du tout visible puisque ce sont des livres qui sont faits à usage privé. Donc c'est des personnes qui me sollicitent pour que j'écrive leur histoire pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour transmettre cette histoire. Donc voilà, moi je conduis des entretiens avec ces personnes et ensuite, à partir de ce qu'elles m'ont raconté, bah, je rédige, j'insère des photographies ou des documents pour illustrer et puis je fais des petits livres format A5, un peu livre de poche, avec une vraie reliure, enfin un dos carré-collé, ce qu'on appelle un dos carré-collé comme un livre de poche, donc c'est pas relié comme quelque chose qu'on va présenter, un dossier ou quelque chose comme ça. Ça ressemble vraiment à un livre et l'idée, c'est de valoriser cette histoire et puis de pouvoir la transmettre aussi. Donc ça, ça reste toujours aussi une activité que je poursuis de loin en loin, mais bon, qui est toujours présente. Et puis, si on a le temps, il y a deux autres pôles que j'aimerais évoquer. Je travaille avec le RIS, donc, qui est le Centre Mémoire et Société, qui est à Villeurbanne. Ça va faire la cinquième année, je pense, que je collabore avec le RIS sur une collecte de témoignages que je conduis donc, chaque année. Donc soit en lien avec les expositions que propose cette structure, puisque donc c'est le RIS rassemble les archives de la ville, une bibliothèque qui est plus dédiée à la mémoire, et puis un lieu d'exposition donc dans lequel il présente des expositions en lien avec la mémoire de la ville, donc sur différentes thématiques. Donc je collabore avec eux soit donc en lien avec une exposition, bah, on parlait tout à l'heure en off des jardins par exemple, il y a eu tout un travail de fait sur les jardins ouvriers de Villeurbanne, les jardins partagés, et avec une photographe, et moi j'ai accompagné ce travail en allant rencontrer des personnes qui avaient un jardin et en leur demandant de me raconter un peu l'histoire de ce jardin et leur rapport à ce jardin. Ou bien on a une exposition sur les habitats, et là je suis allée rencontrer des personnes qui avaient des maisons dans tout un tas de quartiers de Villeurbanne. J'ai collecté leurs témoignages, et ces témoignages ont fait partie de l'exposition. Ils étaient insérés dans des tiroirs, puisqu'il y avait toute une scénographie avec des meubles de maison, des maisons, donc ils étaient présentés là, dans ce cadre. Et puis à côté donc de ce travail qui se fait en lien vraiment avec l'actualité de la structure, il y a tout un travail de collecte à l'année. C'est-à-dire qu'on propose à toute personne villeurbanaise qui a une histoire avec la ville, parce qu'elle a eu un commerce, parce qu'elle a vécu la guerre, parce qu'elle a travaillé, parce que de raconter ses souvenirs. Donc moi, je reçois ou je vais rencontrer chez elle des personnes tout au long de l'année. Et ces témoignages sont ensuite conservés donc, aux archives et alimentent la mémoire de la ville. Et sont mis ou vont être mis, alors parce que c'est en cours, en ligne, donc vont être ensuite à terme... On pourra les consulter avec l'accord, bien sûr, des personnes qui ont témoigné. Donc ça, c'est un poste très important dans mon travail. Alors pareil, très riche, parce que je rencontre des tas de personnes très 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 différentes, sur tout un tas de thématiques très différentes. Là, on a travaillé avec une mosquée aussi, donc voilà, c'est très varié.
Celle qui est
La mosquée Haussmann, qui est rue Octavie.
Oui.
Voilà. Et puis avec le RIS aussi, j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture ou d'ateliers avec des classes. Encore cette année dans un collège et un lycée, avec quand il y a des projets collecte de mémoire, là il y avait un projet BD par exemple, et donc les jeunes devaient aller interviewer des personnes, c'était immigration et bande dessinée, donc des personnes issues de l'immigration, collecter des témoignages. Voilà, moi je les forme un petit peu à la collecte de témoignages et je leur explique comment je travaille, donc il y a aussi tout cet aspect-là, un petit peu de formation. Et puis j'ai démarré aussi l'année dernière, et on continue cette année, un nouveau secteur, on va dire, dans mon activité, ce qu'on appelle les biographies, entre guillemets, thérapeutiques. Donc là, c'est suite à un article que j'ai lu sur une biographe qui travaillait à l'hôpital de Chartres, avec des personnes en fin de vie, et qui donc écrivait leur biographie avec eux, pour les aider à affronter là, cette fin de vie. Et donc moi j'ai sollicité quelques structures et j'ai été accueillie à la clinique du Tonkin, qui a été sensible au projet et qui elle n'a pas désiré travailler avec des personnes en fin de vie, mais avec des personnes avec des pathologies récurrentes, enfin des dialysées en l'occurrence, donc qui reviennent 2, 3, 4 fois par semaine en dialyse, qui sont là alors qu'on a des âges très différents. Ça peut être des personnes qui ont eu ces problèmes de dialyse sur la vraiment le tard, ou des personnes qui sont depuis 20 ans en dialyse et qui ont 50 ans, avec toute la problématique de la greffe ou de pas la greffe, enfin comment on vit avec une maladie comme ça au long cours. Donc ça a été proposé aux patients. On a démarré l'année dernière, donc j'ai fait déjà quasiment terminé avec une personne. Et on poursuit cette année. On a eu un financement via Apicil qui donc aide des projets de lutte contre la douleur. Donc cette année, on a tout un travail qui se conduit dans ce cadre-là. Donc c'est encore une autre manière de travailler sur le récit de vie. Là, on n'est pas forcément sur de l'exhaustif, puisque c'est, alors comme le RIS, où on est souvent sur des thématiques, là, c'est vraiment la personne va décider peut-être de parler que de depuis qu'elle est malade, ou que de la greffe, ou alors de toute sa vie. C'est très libre, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que mon métier, je m'adapte tout le temps, beaucoup, au public. J'ai travaillé avec des enfants, avec des personnes très âgées, avec des adultes, en intergénérationnel aussi. Donc, il faut être très souple, il faut s'adapter. On prépare des questions, mais ça... vous connaissez ça, les personnes ne répondent pas forcément ou font des digressions. Il faut savoir les ramener quand même au fil de l'histoire, mais être aussi capable d'écouter ce qui arrive et qui n'était pas prévu, qui peut être très intéressant. Donc là, voilà, c'est tout nouveau. Je suis très contente de faire ce travail parce que c'est vrai que... En fait, moi, je suis fille de médecin. J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait médecine parce que je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde et que j'avais pas... disons que j'étais pas assez forte en sciences et qu'en plus, je m'évanouis dès que je vois une goutte de sang. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais je suis contente de mettre un pied dans ce milieu-là et finalement, en ayant mon projet à moi et en apportant quelque chose... enfin, en essayant d'apporter quelque chose à ces personnes. Et apparemment, en tout cas, la première personne avec qui j'ai quasiment terminé... quand on s'est vu la dernière fois, elle m'a dit « Ah, mais on se voit plus, c'est fini. » Enfin, elle était très satisfaite du contact et de ce que ça lui a apporté. Parce qu'en fait, elle a revisité un petit peu sa vie. Elle s'est rappelée aussi qu'elle n'avait pas été tout le temps quelqu'un de malade et qu'elle n'avait pas tout le temps été uniquement une personne dialysée. Et c'était un peu l'objectif, c'est de rendre ces patients acteurs de leur vie et personnes qui subissent quand même beaucoup de contraintes.
La clinique du Tonkin ?
Alors j'avais fait un travail avec la clinique du Tonkin pour l'anniversaire aussi de la clinique du Tonkin. Ça c'était un petit travail de...
30 ans d'histoire.
Voilà, biographie d'entreprise on va dire, donc qui était à l'occasion de l'anniversaire. On m'avait sollicité pour faire un livre qui racontait un petit peu l'historique de cette aventure. Donc c'était construit un petit peu toujours pareil. Je suis allée rencontrer les fondateurs... des personnes en activité, on avait aussi quelques témoignages de patients, et puis quelques articles de presse, des photos, et puis construire cette histoire. Alors ça, ce livre, il a été fait vraiment uniquement en interne et distribué au personnel à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans. Voilà, donc là, c'était encore... On se rapproche plus de la veine des biographies de particuliers, où c'est à usage très très limité et très privé, et... Voilà, donc c'est, effectivement, c'est un petit peu un prolongement ce que je fais aujourd'hui là-bas, même si c'est pas du tout pareil, puisque là, il n'y a pas du tout de fact.
Donc le Tonkin, vie urbaine, comme pas très loin de l'INSA.
Voilà, clinique du Tonkin, voilà, oui, tout à fait, pas très loin de l'INSA, pas très loin du 6e non plus.
Ouais, limitrophe.
6e, limitrophe, voilà. Un établissement, d'ailleurs, qui va déménager bientôt, qui va disparaître, l'établissement historique. Donc c'était bien d'avoir une trace de cette histoire aussi.
Vous avez deux documents, vous avez photocopié. Ville de Villeurbanne, cabinet du maire, le 1er février 1968, monsieur, par lettre en date du 29 janvier dernier, vous m'avez fait part des intentions émises au cours de notre entrevue concernant l'implantation d'une clinique au voisinage du Grand Camp, etc. Donc, il y a aussi des documents un petit peu...
Voilà, des articles de presse. Oui, parce que j'avais rencontré un des fondateurs qui s'était vraiment occupé de la mise en place et qui m'a confié comme ça tous ces documents, tous ces courriers qu'il avait conservés.
Les articles du Progrès, vous n'avez pas de soucis, on peut les copier, il y a des demandes particulières, non,
à usage interne, mais oui, non, puisqu'ils sont consultables, les articles du Progrès. Là, c'est plus compliqué après quand il y a des photos, mais dans la mesure où elles sont fournies par les personnes, qu'elles donnent leur accord. C'est comme pour les témoignages, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, je fais toujours relire aux personnes avant impression, les photos, c'est pareil, on fait toujours bien valider qu'on peut mettre la photo, qu'il n'y a pas de soucis. Ça, c'est très très important pour ne pas avoir de problème ensuite, quoi, et vis-à-vis des personnes ou de personnes extérieures qui n'ont pas été prévenues ou choses comme ça.
Dé Infusini, c'est qui ?
Qui ça ?
Dé Infusini, c'est une dame ou quelqu'un qui a fait un poème.
Ah, ça devait être une patiente.
Honneur aux patients. Aux urgences du Tonkin, tout de suite, prise en main, docteur, infirmier, compétent, s'occupe de leurs patients. Ils décident en réa. Au 6e, me voilà, l'accueil est excellent, le personnel avenant, santé améliorée. Au 5e, fut installé, là encore, j'ai trouvé réconfort et amitié. Infirmière, aide-soignante, toutes très conciliantes, toujours de bonne humeur, un sourire apaisant la douleur. Personnel médical, personnel aide-soignant, un bonjour amical avec mes remerciements. Ce petit poème n'est peut-être pas bien composé, mais il vient du cœur pour vous dire à tous ma reconnaissance.
Voilà, ça c'était un poème qui avait été remis à l'équipe par une patiente et ça fait partie des documents qu'on m'a prêté pour pouvoir les inclure dans ce livre. Parce que c'est vrai que je ne voulais pas que ça soit uniquement le regard des soignants ou qu'il y ait aussi ce regard des patients.
La clinique du Tonkin emploie aujourd'hui environ 620 salariés.
Alors bon, depuis, ça a dû changer. Hein. Ça fait déjà 10 ans, ça, je crois, presque. Hein.
Ah oui, c'était au tout début, oui, mars 2005, ça a été imprimé.
Voilà, c'est ça. Oui,
vous
ça
avez différents formats. Comment vous choisissez finalement quelle taille ça va prendre ? À quel moment vous dites, c'est au départ, vous décidez de nombre de pages et de formats, est-ce qu'il y a des carrés, des rectangulaires,
je peux commander. Alors en fait, C'est vrai que celui-ci, il est carré.
Façons de relier différentes.
Les premiers livres que j'ai fait avec les éditions du Maupassant, qui sont des livres souples comme ça, couverture souple, ils étaient sur ce format carré, 20 par 20 ou 19 par 19, que moi j'aime bien. Je trouve ça assez convivial, attractif. Voilà, ça prend pas trop de place. Après, les formats qui sont plus grands qu'on a fait aux éditions du Maupassant, qui sont cartonnés et qui sont plus sur des 21-29-7, ça c'est un choix de la structure en fait qui finance et qui porte le projet. Donc c'est le centre social qui va décider, qui préfère un plus grand format ou voilà pour valoriser les photos ou parce que c'est plus valorisant aussi pour les habitants. Voilà, puis moi quand je travaille avec des particuliers, moi c'est toujours ce format A5, donc une demi-feuille, parce que je trouve que ça fait vraiment petit livre, et pareil, c'est pas trop gros, mais ça se range bien dans une bibliothèque, et ça reste joli. Donc voilà, après il n'y a pas trop d'autres formats, c'est toujours dans les mêmes styles, mais il peut y avoir une décision de faire un format. Si j'en avais un, je ne sais pas si je voulais prêter centre social de Givors pour l'anniversaire du centre social. On avait fait un format à l'italienne, donc en longueur. Mais là, c'est un choix du comité de voilà. C'est un choix du comité de pilotage qui a travaillé
avec des dessins.
Avec des dessins, voilà. Puisque là, moi, je suis arrivée sur ce projet.
Qui était la personne
Catherine Chion, qui est une illustratrice de Givors. Et en fait, j'avais rencontré le directeur du centre social de Givors, qui était un ancien directeur du centre social de Mermoz, donc quand j'avais fait le travail sur Mermoz. Et il se trouve que quand ils ont eu la date anniversaire de Givors, bah, il m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord pour faire un livre à cette occasion. Mais il y avait déjà un comité de pilotage qui existait, avec des idées quand même très précises sur comment serait le livre, qu'il y aurait des illustrations, des témoignages, que le format serait comme ci, comme ça. Voilà.
Je suis désolée, on va devoir vraiment raccourcir. C'est passionnant ce que vous dites. Vous reviendrez avec plaisir si vous le souhaitez. Vraiment, je vous invite. Parce que là, par exemple, vous parlez de Bron. Alors, c'est aussi une ville qui me parle. J'étais brondillante pendant 10 ans. J'ai habité Lucé-4, donc vous devez connaître Manon. Du coup, ouais. Vous découvrez bien Lyon. Donc il y a plein de choses à raconter. Vaux-en-Velin. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Donc, Givors, on aurait pu discuter. Les 6 érémistes.
Oui. Bah ça, j'ai failli. Voilà, j'allais vous en parler quand je vous parlais des patients en dialyse. C'est parce que c'est vrai que les RMIs, ça relevait un petit peu pour moi du même état d'esprit. C'est-à-dire, c'était des RMIs de longue durée. C'est le Centre communal d'action sociale de Caluire et Cuire qui m'avait contacté. Une assistante sociale, deux assistantes sociales qui portaient ce projet. Qui avait monté un groupe d'échange avec des RMIs de longue durée et qui voulait qu'ils reprennent confiance en eux. Donc on a fait ce travail.
Il faudra revenir en parler, parce que là,
pas de problème.
Voilà, alors je coupe rapidement Blues Against You, c'est un compositeur, un chanteur à découvrir que j'ai rencontré au Troxon. Parce qu'il faut conclure malheureusement, et merci Cécile Mathias.
Merci à vous.
Et allez, c'est parti pour le générique, et on va pas se quitter comme ça, on va se dire au revoir. Et en plus, j'ai un assistant aujourd'hui, c'est chouette.
Et quel assistant ?
Tiens, bah, tu veux nous dire peut-être tout de suite, Bertrand, ce que tu as prévu pour le 30 ?
Oui, donc le 30 janvier, je serai pas simplement assistant, je serai aussi au platine. puisque Delphine a annoncé qu'elle n'était pas là, donc je prends la relève juste pour cette date. Donc le 30 janvier, ce sera une émission thématique, mélange entre les musiques, disons, occidentales, dont on a plutôt l'habitude, le jazz, le rock, l'électro aussi, et les influences de musique du monde. Très largement des musiques de culture qu'on connaît plus ou moins, et du coup aussi bien des musiques, donc des musiciens de musique du monde qui se réapproprient les musiques qu'on connaît le mieux comme le rock, le jazz, en mélangeant à leur musique, mais aussi les musiciens de musique rock, jazz, qui ont des influences de divers horizons, que ce soit indienne, de certaines parties d'Afrique, d'Amérique du Sud. On fera un petit tour de panorama, voilà.
Alors, je speed un petit peu Bertrand. Donc, ce sera le vendredi, le dernier vendredi du mois, je crois que c'est le vendredi 30 janvier. Alors pour conclure, Cécile Mathias, quand même, on peut peut-être rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut vous voir, ce que vous allez faire par la suite.
Bah écoutez, donc il y a les livres qui sont édités aux éditions du Maupassant sur les quartiers de Lyon ou les communes environnantes peuvent se trouver donc en librairie ou via internet, hein, sur le site des éditions du Maupassant. Après, tout ce qui est fait avec le RIS, donc le Centre Mémoire et Société, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la commune, qui vivent à Villeurbanne et qui ont envie de connaître plus de témoignages, elles peuvent aller sur le RIS consulter ces témoignages. Et puis donc là-bas, je vais travailler sur Gerland avec les femmes. Voilà, ça va être l'année de la femme à Gerland.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et au plaisir peut-être de revenir parler. Je proposais peut-être aussi sur Gerland, des choses à échanger bientôt.
Merci.
Je vous souhaite de passer un bon week-end malgré les événements à tous. Que cette année démarre avec que chacun puisse réaliser ses projets. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, voilà, plein de bonheur, on vous embrasse bien fort. Et puis, soyez, comme disait Laurent la semaine dernière, soyez forts.